Et le journal vous est présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement Castex, dans la continuité du précédent, les nouveaux visages sont rares mais marquants. L'avocat Éric Dupond-Moretti est nommé à la justice. Roselyne Bachelot sort de sa retraite politique et des plateaux médiatiques pour prendre le ministère de la Culture.
Barbara Pompili arrive à la tête d'un super ministère de la transition écologique associé au logement et au transport.
Gérald Darmanin, lui, est promu à l'intérieur. Nous passerons en revue ce gouvernement renouvelé d'un tiers qui a pour lourde tâche de relancer l'économie et le quinquennat. Déjà des critiques sur ce casting, vous l'entendrez. À la une encore, l'Espagne, quatrième économie de l'Union européenne, est sortie de la crise en sacrifiant les plus fragiles, selon les Nations unies. Il doit encore préciser le nouveau chemin que prendra son quinquennat, mais déjà, Emmanuel Macron réunit le gouvernement de Jean Castex pour son premier conseil des ministres. Ce sera à 15h cet après-midi, avec autour de la table 16 ministres délégués et un secrétaire d'État. Un gouvernement remanié, mais l'on note une certaine stabilité, Rosalie Lafarge.
Sur les 31 noms égrenés depuis le perron de l'Élysée, 8 seulement sont nouveaux et 2 font d'ores et déjà beaucoup parler. Le ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, est nommé à la justice. L'ancienne ministre, Roselyne Bachelot, s'empare de la culture. C'est ce qu'on appelle des coups, reconnaît le politologue Olivier Roucan.
Oui, des coups médiatiques, des coups pour augmenter la visibilité de ce gouvernement, puisqu'on a souvent reproché au précédent de manquer de figure.
Mais au-delà des 8 nouveaux, tous les autres étaient dans l'équipe d'Édouard Philippe. Leur confirmation, leur promotion ou leur changement d'attribution confirme la volonté d'Emmanuel Macron de faire pencher son et de droite et de gauche, manifestement plus à droite qu'à gauche.
La stratégie sur le fond reste de préempter l'espace électoral occupé par le centre-droit et par les Républicains. Avec Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'est une promotion avec le maire qui reste à l'économie et qui sera le vrai patron du ministère. Blanquer, confirmé à l'éducation nationale, qui détient aussi la jeunesse et les sports. Donc on voit bien que sur le plan des principaux ministères, ce sont des figures de droite qui sont à l'action. Certes, il y a toujours Le Drian et Parly aux affaires étrangères et aux armées, mais bon, on sait aussi qu'ils ont bien évolué par rapport à leur ancrage initial à gauche.
Dans ce nouveau gouvernement, on note tout de même une volonté de verdir l'affichage avec Barbara Pompili à la transition écologique et Annick Girardin nommée ministre de la mer. Quelques nouveaux portefeuilles sont créés. La citoyenneté pour Marlène Schiappa, la fonction publique avec Amélie de Montchalin. Enfin, le couple exécutif se sépare de plusieurs figures. Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud, Didier Guillaume, mais aussi Christophe Castaner et Sibeth Ndiaye, deux très proches, devenus trop encombrants, en tout cas pour rester ministre et porte-parole.
Gabriel Attal accède, lui, au poste très exposé de porte-parole du gouvernement. Arrêtons-nous à présent sur l'un des visages qui attire la lumière, mais aussi des critiques, l'avocat Éric Dupond-Moretti, nommé garde des Sceaux, Florence Turme.
Il a défendu Abdelkader Merah, le frère du terroriste des attentats de Toulouse, Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, obtenu l'acquittement de Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État accusé de viol, un acquittement de plus venu s'ajouter à la longue liste de ses succès de plaidoirie qui lui ont valu le surnom d'acquittateur. Dans les salles d'audience, il impose sa voix et ses colères, tonne et tempête contre le représentant du parquet et ses confrères de la partie civile, dénonce de manière systématique une justice rendue au pied du mur de l'exemple, ferraille tout autant avec Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon, à qui il avait conseillé d'aller prendre une bonne petite camomille à la veille de son procès. Un goût marqué pour les joutes oratoires et récemment pour la scène théâtrale, un sens de la formule très éloigné du politiquement correct, y compris quand il s'en prend à l'entre-soi des magistrats. La première réaction de l'USM, le syndicat majoritaire de la profession, est d'ailleurs de parler de déclaration de guerre. Tout récemment, Éric Dupond-Moretti est lui parti en guerre contre le parquet national financier. Il a déposé plainte après avoir fait l'objet de surveillance téléphonique en marge de l'enquête sur l'affaire des écoutes qui vise Nicolas Sarkozy, avec à la clé ses propos lapidaires. Il y a une clique de juges qui sont les gardiens autoproclamés de la morale publique et qui s'autorisent tout au nom de l'indépendance. Quelques juges qui dérapent et dérivent et je pense, avait conclu celui qui est aujourd'hui garde des Sceaux, qu'il est temps de les remettre là où ils doivent être parce que sinon, c'est un grand danger pour notre démocratie.
Au Rassemblement national, la nomination d'Éric Dupond-Moretti à la justice passe mal. Il s'agit d'un militant d'extrême-gauche qui souhaite l'interdiction du RN, a déclaré hier Marine Le Pen. Mauvaise pioche, estime encore l'avocat Gilbert Collard, député européen du RN.
C'est vraiment pas ce type de personnalité qui peut servir maintenant la justice dans la période de crise qu'elle connaît, quoi. C'est une espèce de folie. Et tout dépend ce qu'on veut, quoi. Où on veut qu'un ministère, ça soit une chaîne d'infos en continu, où on veut que ça soit un ministère régaliens qui permettent à une administration en difficulté de sortir des travers politiques, organisationnels dans lesquels elle est tombée. Bon, on n'a pas besoin d'une grande gueule au ministère de la Justice, quoi. Ça va très mal finir, hein. Il y a des personnalités qui ont d'extraordinaires qualités, mais qui vraiment ne peuvent pas, par leur amplitude polémique, leur parti pris idéologique, occuper un poste qui a quand même pour emblème l'équilibre des balances.
Hein. Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national, il répondait à Wafia Kenich. Autre surprise du nouveau gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot devient ministre de la Culture, la Chiracienne également. Ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy, avait abandonné la politique pour les plateaux télé et radio en 2012. Elle s'installe avec enthousiasme, dit-elle, rue de Valois, où les dossiers ne manqueront pas de s'empiler sur son bureau. Spectacle vivant, édition, cinéma, audiovisuel, presse écrite. Tous les secteurs de la culture ont été durement éprouvés par la crise sanitaire. 22 milliards d'euros de pertes déjà estimées par rapport à l'an dernier. On y revient dans le journal de 8h. Gérald Darmanin arrive, lui, place Beauvau après avoir quitté le ministère de l'Action et des Comptes Publics. À 37 ans, ce proche de Nicolas Sarkozy, réélu dès le premier tour à Tourcoing, se voit clairement promu par Emmanuel Macron en étant donc nommé au ministère de l'Intérieur. Il sera secondé par l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa qui obtient un ministère délégué à la citoyenneté, les précisions d'Anne Fauquemberg.
Gérald Darmanin avait expliqué récemment vouloir peser davantage sur les choix politiques et continuer à travailler avec Emmanuel Macron. Le maire de Tourcoing, qui peut se targuer d'avoir réussi la réforme de l'impôt à la source, va plonger dans un chantier tout aussi délicat, celui du nouveau schéma national du maintien de l'ordre en attente depuis un an, afin d'améliorer la déontologie des forces de l'ordre accusées de violence dans la gestion des manifestations notamment. Âgé de 37 ans, né à Valenciennes dans le Nord, ce petit-fils de tirailleurs algériens issu d'un milieu populaire, a l'habitude de dire qu'il est sociologiquement de gauche et culturellement de droite. Sans être le grand flic réclamé par les policiers, son profil marqué par son parcours auprès de Nicolas Sarkozy, son mentor en politique, séduira peut-être une profession en rupture depuis plusieurs semaines avec Christophe Castaner. À moins que le nouveau ministre ne soit interrogé par ces mêmes forces de l'ordre dont il a désormais la charge, la justice vient en effet d'ordonner la reprise des investigations pour une accusation de viol le concernant en date de 2009, ce qui donne à son duo avec Marlène Schiappa, l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, une impression paradoxale. Cette féministe revendiquée, qui avait publié un livre en 2018 sur la laïcité, se voit quant à elle promue sur un portefeuille inédit de ministre délégué à la citoyenneté.
Et Marlène Schiappa est remplacée par une inconnue en politique, Elisabeth Moreno, est la nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité femme-homme, de la diversité et de l'égalité des chances. Cette patronne de la tech discrète passée chez Dell, Lenovo, HP a Afrique se définissait l'an dernier comme une femme noire élevée dans une cité et aimant, je cite encore, le challenge.
France Culture 7h08, l'inquiétude face à la pandémie règne toujours aux États-Unis.
Où la barre des 130 000 morts de la Covid-19 a été dépassée hier. Inquiétude aussi chez les scientifiques. Ils sont plus de 230 alertés sur la transmission aérienne du virus à plus de 2 mètres par la suspension des particules virales. En Espagne, les autorités sanitaires se disent, elles, très préoccupées par la reprise de l'épidémie dans une région de 200 000 habitants en Catalogne, dans le nord-est du pays. L'Espagne et ses politiques contre lesquelles le rapporteur des Nations Unies dresse un réquisitoire implacable à propos de la pauvreté dans le pays. La correspondance de Mathieu de Taillac.
L'Espagne, quatrième économie de l'Union européenne, est sortie de la crise financière de 2009, mais elle l'a fait en sacrifiant les plus fragiles. Voilà, en somme, la conclusion de Philippe Alston, le rapporteur spécial de l'ONU pour la pauvreté et les droits humains. Le détail des reproches donne la mesure de la consternation d'Alston. Les situations de grande pauvreté sont très étendues, dit-il. Le taux de chômage est élevé, le chômage des jeunes est chronique, la crise du logement a des proportions énormes, les programmes de protection sociale sont insuffisants, le système éducatif est anachronique. Les politiques fiscales et de redistribution favorisent davantage des classes aisées que les plus pauvres. Une mentalité bureaucratique permet aux autorités d'éluder leurs responsabilités et fait primer la forme sur le bien-être des personnes. Autant d'accusations qui figurent noir sur blanc dans les conclusions du rapporteur, qui a vu les conditions de vie des travailleurs immigrés dans l'agriculture, qu'il juge plus dures que celles des réfugiés dans les camps. Alston raconte également avoir rencontré les personnes expulsées de chez elles après que leur HLM a été vendu à des fonds d'investissement. Maigre consolation pour le gouvernement espagnol, sa première préconisation, la mise en place d'un revenu social minimum, l'équivalent de notre RSA, a été adoptée il y a 2 mois par le Parlement.
Mathieu de Taillac en Espagne pour France Culture. Le temps de ce mardi 7 juillet ensoleillé dans tout l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 8 et 15 degrés en général du nord au sud.